Bienvenue sur le podcast. Le podcast de Trouver Objet Caché. www.tentacules.net. Le site francophone dédié au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. À vous les poulpes.
Bonsoir, je m'appelle Von.
Bonsoir, je
m'appelle De Marigny.
Bonsoir, De Marigny.
Bonsoir, je m'appelle Carter.
Bonsoir, Carter.
Bonsoir, je m'appelle Yoda.
Bonsoir, Yoda.
Ce qui nous réunit tous ce soir, c'est qu'après avoir travaillé pendant un an et demi sur les masques, où nous venons en parler, il faut exorciser ces démons. Le petit enfant n'est pas là.
Attention, on a dû le mettre au fond à côté de l'eau.
Si nous sommes tous réunis ce soir, c'est pour que nous puissions entamer, chacun, un travail de rémission après un an et demi dévoué à une cause qui aurait pu nous paraître juste au départ. Elle était telle. Nous allons tous en parler. Tous mettre dans un petit sac ce que nous avons à évacuer et le jeter.
Non, on déconne. Vous avez, vous avez très certainement, si vous êtes là encore ce soir, entendu le premier podcast, hein, messieurs.
La méthodologie.
Vous êtes encore chez moi, tous les quatre.
Il y a encore en arrière. On n'a pas fini.
Il reste des petits enfants. Donc, si nous proposons un nouveau Ami Poulpe et Ami Poulpette, si nous vous proposons un nouveau podcast qui va parler des masques, c'est pour compléter celui qu'on a dû mettre en ligne normalement il y a de cela quelques semaines, mois, enfin, le temps qu'il aura fallu pour que la campagne sorte. Et là, pour être très clair, hein, on va vous laisser un petit temps d'arrêt à ceux qui ont pris ce podcast sans savoir ce que c'était, car nous allons dévoiler pas mal de choses sur la campagne, on est tous d'accord. Les dessous de la campagne, sur quoi on a vraiment travaillé, les vrais ajouts, les vrais modifs, nos questions, les questions auxquelles on a répondu, mais là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc
le contenu,
ouais. Les secrets, on va vous laisser facile une bonne minute pour vous éloigner du poste.
Amis joueurs, investigateurs. Hein.
Barrez-vous, dégage, allez,
pile, casse-toi.
Ça y est, ils sont partis.
Attends, je m'entends dans l'oreille, je sais pas. Ouais, non, je crois que c'est
bon. Bon. Alors, donc voilà. Sur quoi on est parti, c'est assez simple, là, pour rentrer dans le vif du sujet. Les masques, la façon dont c'était fait à l'origine, c'était une campagne complètement linéaire. On arrive à New York, on défonce la porte, voilà. Et après les événements, on est d'accord, vont s'enchaîner de façon un peu guidée. On doit faire Londres, enfin on doit faire New York, après New York c'est Londres, de Londres on vous conseille discrètement d'aller au Caire, puis à Nairobi, si vous avez acheté les terrains en Australie, direction l'Australie, et tout le monde finit bien tranquillement à Shanghai, sur l'île du Dragon Gris, à déployer avec Peignou et son horloge magique. Donc, on vous en avait parlé dans le premier podcast, le but c'était de délinéariser la campagne, donc on va vous expliquer un peu comment on a procédé pour, modifier le contenu en lui-même. Sachant qu'on peut, on va commencer par le début, hein, ce podcast va être assez chronologique, on va commencer par l'introduction. Vous saviez que dans la version boîte, donc, les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu, dans la version boîte, il y avait donc le petit recueil introductif qui reprenait les éléments qui allaient se dérouler dans la campagne, qui, ma foi, aidait, mais était assez, assez léger.
Voilà, un petit feuillet, hein, 4 pages. Hein.
Ouais, c'était ça. Voilà.
Donc, juste très rapide, un petit résumé, les personnages principaux et destination chapitre 1.
Déjà, ce qui était censé se passer, c'était la linéarité était déjà donnée dans ce petit manuel, vu qu'on savait comment ça allait se passer.
Ouais, je crois même que ça racontait juste en fait l'histoire de l'expédition Carlyle avant sa disparition.
Ouais.
Et ça n'expliquait pas en fait véritablement ce qui allait se dérouler pendant les différents scénarios.
Voilà, il y avait un petit morceau sur les plans de Nyarlathotep, je crois, mais c'était tout. Donc, nous, le premier chapitre qu'on a voulu poser, donc le chapitre introductif, déjà, on va reprendre les éléments qui vous avaient été donnés dans les premières versions de la campagne, c'est-à-dire le contexte, ce qui s'est passé pour l'expédition, et dès cet instant-là, on a commencé à retravailler, notamment pour une des personnes, un des PNJ les plus importants, dont le trajet
n'avait pas été complètement j'avais décrit et maîtrisé.
Voilà, donc là il s'agit effectivement de Jackson Elias.
Le fameux.
Le fameux cadavre de Jonathan Chelsea. Donc effectivement, il n'y avait pas du tout d'historique qui était présent précédemment. C'était juste en filigrane de chapitre en chapitre. On apprenait en fait ce qu'il avait fait à chaque fois. Donc c'est vrai que c'était assez décevant parce que la part du gardien, s'il avait vraiment volonté de comprendre ce que Jackson Elias lui avait pu découvrir les éléments, enfin d'où il avait tiré les éléments et comment ils étaient après fournis aux joueurs, ben, il n'y avait quasiment rien où il fallait tout fabriquer.
Et surtout que dans le fond c'est un peu la trame, c'est la trame même du scénario, parce qu'on est sur la piste de ce fameux Jackson Elias avec le ce que vous savez sur Jackson Elias.
Voilà, et les joueurs partant du matériel qui est amené par Jackson Elias vont naturellement aller à la chasse aux endroits que Jackson Elias a lui-même visité.
Donc dans la nouvelle version, on a
un chapitre
voilà, qui explique finalement la chronologie des voyages de Jackson Elias, ce qui l'a mené à arriver finalement désespéré à New York après avoir retracé un peu l'expédition, après être remonté aux origines du mal. Donc première chose, on vous explique ça vous évite juste d'avoir un pauvre petit paragraphe qui est censé vous lancer quand même dans une campagne qui va durer plusieurs dizaines d'heures. Mais on ne s'est pas arrêté à ça parce que on a voulu, permettre à des équipes différentes d'attaquer la campagne en leur donnant des motivations. Là, la première motivation qui a été donnée, c'était le télégramme pour le faire venir à New York.
Ça, c'est l'introduction classique, on va dire, de tous les scénarios de l'appel de Cthulhu. C'est mon oncle est mort et il faut que j'aille récupérer l'héritage. Ou bien un ami m'envoie un télégramme et zut, il est mort.
Il me demande de le retrouver et finalement, il me demande un peu de sortir de nulle part, de réunir une équipe un peu improbable.
Tout abandonner de ma vie courante et puis de partir en chasse.
Après, finalement, quelque chose que lui-même n'a pas vraiment trouvé et duquel il laisse quelques pistes, quelques indices, mais sans plus.
Ouais, c'est exactement ça. Et donc, du coup, on a essayé justement un peu de casser cette linéarité et ce côté un peu cliché, comme ça avait été évoqué à l'instant, qu'on pouvait constater dans de nombreux scénarios de l'appel de Cthulhu, pour proposer différentes approches, en fait, pour introduire, en fait, les investigateurs dans la campagne.
Alors être approché par exemple par un groupe d'investisseurs, parce que tout tourne autour de la famille Carlyle, une famille donc richissime, donc il y a la possibilité qu'un groupe d'investissement veuille savoir ce qui est arrivé, ce que c'est ce fameux Jackson Elias. Au lieu d'en faire une victime un peu malgré lui, on peut tout à fait le remettre au centre du scénario comme finalement le détenteur de secrets qui pourrait mettre en péril des gens, des choses comme ça.
Voilà, ce qui se justifie par le fait que quand Jackson Elias revient aux États-Unis, en fait, il est en train de prouver que Carlyle n'est pas mort. Et donc à partir de ce moment-là, tout ce qui a été annoncé, l'héritage qui a aussi été récupéré par sa sœur est remis en cause.
Donc, on vous en donne une, mais il y a plusieurs possibilités de démarrage. On arrivera quand même, au scénario de New York, mais par différentes approches, que ce soit des approches d'enquête, des approches d'amitié avec Jackson Elias, ou par tout autre, je dirais, tiers qui veut enquêter sur cette affaire et ce type qui revient un peu nulle part avec des informations.
On s'est basé également sur d'autres PNJ du chapitre de New York pour pouvoir introduire les investigateurs dans la campagne. Il y a différents procédés tels que Jonah Kensington des éditions Prospero Press ou le lieutenant Martin Poole de police qui pourrait être un collègue de police d'un des investigateurs qui enquêterait sur les meurtres les meurtres rituels qui ont lieu à New York depuis plusieurs mois qui sont proférés par la secte de la lampe sanglante locale basée à New York. Voir également d'autres pistes afin de vous permettre justement de pouvoir vous retrouver avec différentes approches d'investigateurs si ils ont des profils un peu hétéroclites entre eux ou effectivement gérer un groupe comme ça avait été évoqué.
L'idée c'est de justifier et de rendre crédible l'introduction d'un groupe d'investigateurs qui peuvent être différents, d'horizons différents, pour leur donner une raison valable de se lancer dans l'aventure qui va les mener dans des voyages internationaux.
il faut pour leur donner déjà une vraie cohérence, même s'il n'y a pas eu encore de scène d'action ou de scène, je dirais, pour les souder entre eux. Mais on ne s'arrête pas là, dans ce chapitre. On va vous donner aussi beaucoup de conseils sur la façon de maîtriser la campagne d'une façon un peu globale, c'est-à-dire comment gérer le départ de quelqu'un pendant la campagne, comment gérer l'arrivée d'autres personnes, comment gérer une équipe de débutants, comment gérer la fameuse mortalité des meufs que devient un totem. Enfin, je dirais qu'il y a beaucoup de points qui vont être explicités, abordés, et beaucoup provenant notamment de nos expériences de jeu, de maîtrise sur les difficultés ou même ce qu'on a pu recueillir de vous-même qui écoutez ce podcast, avez peut-être noté dans un forum toutes les idées qui nous semblaient nécessaires à l'introduction de cette campagne. On a bien sûr rajouté les événements qui se déroulaient pendant ces années-là. On a le descriptif des différents PNJ principaux, hein, comme il y avait à l'origine. Donc tout ça fait une compilation assez dense et qui permet de se plonger de plein pied dans la campagne. Bon.
On trouve aussi tous les éléments qui sont liés à l'expédition Carlyle qui existait déjà précédemment, avec toutes les différentes étapes, ce qui s'est produit avant l'arrivée aussi de Jackson Elias. Et donc un peu toutes les intrigues qui commencent à se nouer et qu'ensuite les investigateurs vont devoir arriver à découvrir.
Voilà, d'ailleurs on vous met en toile de fond aussi les plans de Nyarlathotep et un peu le contexte du mythe autour de la campagne. Et tout cela, bien sûr, pour vous lancer tout de même, hein, on veut bien briser la linéarité, mais on va dire qu'attaquer par New York, c'est quand même plutôt conseillé.
Clairement. Hein.
Ça serait délicat de commencer par Shanghai.
Nous sommes d'accord.
On n'a pas retourné la campagne jusqu'à ce point-là. Mais on arrive à New York, je dirais, avec plus de choses, notamment concernant, je reviens sur l'édition Carlyle, on vous propose par exemple l'idée de donner au fur et à mesure, soit envoyé par mail, les articles concernant l'expédition au fur et à mesure à vos joueurs pour faire monter l'ambiance et pour arriver sur un chapitre de New York où vous ne trouvez pas à forcer le méta-jeu pour arriver dans la campagne. Les initiateurs sont déjà un peu dans le ton, quoi. Mmh. Et donc ils approchent de l'hôtel, le fameux hôtel Chelsea. Je pense que là on n'allait pas changer le nom. Hein. Mais dès le départ de ce chapitre-là, comme pour tous les chapitres, on a voulu déjà extraire quelle ambiance on voulait donner à chacun des chapitres, quelle ambiance déjà il y avait de présente et sur quel point on voulait mettre le doigt. Et comme on vous l'a dit dans le podcast précédent qui concernait l'organisation, on a rajouté notamment des PNJ et pas mal de descriptions parce que par exemple le chapitre de New York était un chapitre qui était assez peu décrit du fait que la campagne étant américaine, les gens étaient censés connaître la ville de New York et savoir comment un peu ça se passait. Donc par exemple, on va vous donner des informations comme le fait que l'hôtel Chelsea, c'est un véritable hôtel qui existe et qui est finalement celui qui est utilisé dans Léon. Donc pour vous donner, on va essayer de vous donner le plus de conseils et d'aide possible pour que vous puissiez vous faire une idée rapidement, une idée mentale du scénario et du cas là. Et donc ce qui fait que ajout de PNJ, ajout de lieu à New York, des troquets, ce genre de choses. L'histoire en elle-même avec Jonah Kensington a été, on vous ouvre des pistes. Jonah Kensington peut ne pas être l'employeur un peu bené et un peu terrorisé qu'on pourrait avoir dans une version classique, mais ça peut tout à fait être un être un petit peu, beaucoup plus réfléchi.
Voilà, parce que notamment on s'est posé la question de la disparition des équipes d'investigateurs, parce qu'on peut avoir une éradication totale. Dans ce cas-là, il faut avoir quelqu'un qui puisse relancer l'histoire. Et Jonah Kensington est un de ces personnages clés qui pourrait avoir intérêt à ce que, même si un premier groupe disparaît complètement de la surface de la Terre, dans ce cas-là, lui veut continuer l'aventure et va sélectionner une nouvelle équipe.
C'est le premier contact et il réunit à nouveau une équipe. C'est vrai que on en a un peu partout dans la campagne des gens qui font un peu le lien. Et lui est vraiment capital. Et donc il va mettre la main à la patte, enfin il va envoyer les joueurs sur les premières pistes. Par la suite, les pistes sont des pistes classiques qu'on peut tout à fait aborder dans le désordre, que ce soit la police, que ce soit la bibliothécaire, que ce soit la visite de la demeure Carlyle. Ce sont des pistes assez classiques,
Mais par contre, on a voulu un peu développer la secte en elle-même pour ne pas en faire juste une bande illuminée qui se réunisse juste de façon mensuelle, mais qui ont une vraie, une vraie vie. Voilà, exactement, qui suivent, qui vont pouvoir passer en mode filature, qui vont commencer à s'intéresser à des investigateurs qui commencent à un peu trop fouiner dans leurs petites affaires.
C'est d'ailleurs une remarque générale, je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de le redire pour chacun des chapitres, mais dans tous les lieux que les investigateurs vont visiter, on a décrit les fraternités de chacun de ces lieux de manière gérable par le MJ comme des ressources qui ont une vie propre avec des membres propres et qui va agir de concert s'ils ont des liens avec les autres pays, voilà. Ou de manière autonome s'ils sont complètement isolés dans le plan d'un autre.
C'est très important, et en effet dans la nouvelle mouture on vous propose de les faire communiquer entre eux, c'est-à-dire que des investigateurs qui auront un peu foutu le dawa à New York, quand ils attaqueront, et s'ils foutent la même chose à Londres, quand ils arriveront au Caire, bon, ils seront déjà repérés. Quoi.
Alors c'était un point aussi sur lequel on a un petit peu plus travaillé, je pense, en ce qui concerne New York que les autres chapitres, parce que initialement la secte était vue un peu comme c'est la dépendance new-yorkaise du culte kényan de la langue sanglante, et un petit peu c'est juste une boutique, une officine, et ils sont un petit peu là en rôle de faire valoir et attendre que les investigateurs arrivent pour les blaster, quoi, en gros, pour se complicier. Donc c'était un petit peu un rôle trop attentiste. Donc là on leur donne une dimension un petit peu différente, et puis notamment aussi avec la visite de la boutique
Doudou,
qui était un peu dans la version initiale une impasse, parce qu'en fait les investigateurs arrivent à la boutique, se retrouvent confrontés aux zombies, aux chocotas, aux sécateurs. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait le nettoyage, on s'en va et rien ne se passe. Donc là, on a aussi ajouté des éléments supplémentaires de manière à voir des liens entre cette boutique Joujou et les autres sectes, les autres cultes à travers le monde, de manière à fournir des indices supplémentaires aux investigateurs et accroître l'ouverture de la campagne.
C'est là où intervient un des éléments principaux qui fait partie des rajouts, ce sont ce qu'on appellera nous les registres. Hein, Yoda, je pense que tu peux un peu détailler l'idée qui sous-tend.
Alors les registres sont étroitement liés au tableau croisé. Comme on avait parlé rapidement dans le dernier podcast, l'idée c'était qu'on ne voulait absolument rien oublier, et donc on partait du principe qu'un PNJ à New York était susceptible de communiquer avec un PNJ à Londres, et donc ça faisait une piste d'information et qui servait aussi bien à faire vivre la campagne que d'éléments qui allaient servir à renseigner les joueurs. Donc tout ça, c'est une espèce de maillage d'informations que l'on retrouve à travers ces fameux registres qui font partie des nombreuses remarques qu'on a récupérées sur la campagne. On parle régulièrement de registres, d'un envoi, d'un colis à un autre élément de la secte, mais on n'a jamais eu la chance de voir à quoi pouvoir tourner ces registres. Donc vous en aviez tant que l'a fait.
Et puis alors, d'ici du registre, de chez registre, hein, parce que
c'est du complet. Hein.
On n'a pas mis juste trois objets limites. Vous avez une foultitude d'objets plus ou moins miteux et avec chacun des remarques, des destinations différentes. Et donc finalement, on a brisé ce qu'il y avait d'originel, en ce sens que tout devait partir de la chambre de l'hôtel Chelsea. Et finalement, ce que dit Demarini, c'est que le chapitre de New York est juste là pour arriver au trésor et au monstre, hein, derrière la porte, qui était la boutique Joujou. Et une fuite n'est pas forcément justifiée, puisque ils n'ont pas détruit ils ont détruit une grande partie de la secte. Et donc fuir n'était pas forcément le côté le plus judicieux. Donc là maintenant,
surtout que c'est la seule menace en fait qu'il y a vraiment sur New York, c'est cette secte. Donc elle est quand même pas non plus très très présente, très dangereuse. Il fallait leur donner une place un peu plus importante que juste des gars au fond d'une boutique qui attendent derrière un paravent, que le paravent s'ouvre et donner un coup de prangue. à l'investigateur qui se présente.
On en a profité d'ailleurs aussi, comme on avait évoqué sur le précédent podcast, avec notamment l'ajout du chapitre Australie, avec un manque cruel de pistes qui menaient vers ce chapitre australien de par les autres, depuis les autres destinations. On a commencé déjà donc à faire des ajouts de pistes et d'indices depuis New York déjà sur la piste australienne. Afin justement d'avoir quand même une certaine homogénéité en termes de pistes et de liens entre les différents chapitres dès le premier chapitre basé à New York.
On simplifie et on complique en ouvrant, c'est-à-dire que chaque chapitre peut mener à tous les autres, et dès New York on peut aller à Londres, au Caire, à Shanghai, forcément à Nairobi et aussi en Australie. Mais il est vrai que d'un point de vue géographique et chronologique, la plupart du temps, les investigateurs vont partir vers Londres. Donc on va poursuivre nous-mêmes vers Londres, sachant que ce n'est pas forcément la seconde destination. Londres, qui était un chapitre déjà bien fourni, pas mal décrit dans la version originelle.
Parce que les Américains ne connaissent pas suffisamment le commentaire.
Ils étaient obligés de se décrire pour eux-mêmes Londres. Et par contre, qui avait été un peu, gonflé de façon superficielle avec le monstre du derby.
Il y a un point, on en peut pas en parler, mais c'est effectivement, donc au niveau du supplément, on trouve, on a découpé les chapitres en pistes principales et en pistes secondaires et en fausses pistes. Mm-hmm. Donc de manière à vraiment avoir les éléments qui sont les éléments essentiels de la campagne et par lesquels les investigateurs doivent absolument passer. Et puis donc on a aussi ces scénarios à part qui eux n'apportent absolument rien à la campagne en elle-même, si ce n'est fournir des petits intermèdes.
Servir du contexte.
Exactement, se servir du contexte et vivre quelque chose, une petite aventure à part, mais qui n'a rien à voir avec la campagne de l'expédition Carmel.
Ce qu'on a fait en sorte, donc, depuis, à partir du deuxième chapitre, le chapitre londonien, de fournir donc une fausse piste pour chaque chapitre, à savoir qu'effectivement, pour celui de Londres, on a décidé en fait d'éliminer notamment la fausse piste du loup-garou qui n'apportait rien au récit.
Parce qu'on a essayé de garder à peu près, à part pour le chapitre de New York, une vraie fausse piste par chapitre. Et donc là, on a gardé celle qui était la plus probante et celle dont tout le monde se souvenait, c'est-à-dire le tableau de Miles Shipley. Et donc on a voulu conserver, qui restait vraiment, elle, dans l'ambiance londonienne, avec le brouillard et puis le côté un petit peu atroce d'une société un peu artistique, ce genre de choses. Donc le chapitre de Londres, c'est la Fondation Penhew, c'est Edward Gavigan, c'est Mickey Mahoney, qui fait de l'enquêteur. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu beaucoup de modifications. On a pas mal par contre ajouté des quartiers londoniens, de la Londres des années 20.
L'ambiance.
Voilà.
L'ambiance en Londres, beaucoup de lieux utilisables, exploitables directement à l'État.
On a aussi développé, parce que la fin du chapitre londonien se passe à l'extérieur de Londres. On a enfin situé où se trouvaient
la maison Mistre.
Les sexes et la maison Mistre. Donc vous saurez que ça se situe sur la côte est, au sud-est de l'Angleterre. On a même rajouté un petit chapitre de description pour dire à quoi ça ressemblait, à quoi ressemblait le tour. Et
un guide touristique.
Un petit guide touristique, et vous pouvez même être accompagné de guide, parce que pour un final qui, si on évite une équipe de 4-5 investigateurs, pourrait paraître démesuré, on vous a fourni la possibilité, qui avait été remontée dans un forum, d'avoir une équipe de bobbies bien entraînée, bien énervée, pour venir à l'assaut du manoir, ce qui fait que vous vous retrouvez avec déjà deux possibilités. Une possibilité en plus de juste y aller. Il y avait la possibilité de se cacher dans le camion de la pyramide bleue. Et il y a aussi la possibilité d'aller franco avec le soutien donc des bobbies qui sont prêts dans leur redingote à donner l'assaut en plein milieu du marais et vers ces espèces d'énergie humaine qui dansent nues sous la lune. On a même aussi, je crois, revu les monstres
qui apparaissent à la fin.
Oui, voilà, parce qu'il y avait un certain nombre d'incohérences parmi les caractéristiques et puis aussi les listings de monstres qui étaient disponibles. Il y en avait un petit peu trop, un peu plus que ce que le texte ne prévoyait.
C'était un peu une horde.
Voilà, c'était un peu une horde. Ça faisait quand même beaucoup, beaucoup d'adversaires pour les investigateurs. Donc il y avait un déséquilibre qui était trop important. Qui se justifie pas au final.
Tout à fait. Surtout que bon, les investigateurs autant donc sur New York, on vous leur mettrait au basque donc la secte avec les Kenyans new-yorkais. Autant là, le thème était plutôt les Indiens, les Hindous. Il est trop tard pour que je me rappelle. Enfin, des gens de je me rappelle.
Bon, Vent, tu t'étales trop, on se disperse. On va reprendre pour essayer d'être un peu plus structuré. L'heure, il se fait tard. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a rajouté qui est très important, c'est qu'on se rend à la fin. Et là, je vais vous passer le spécialiste, Dem, qui va vous parler de notre triangulation.
Voilà, donc effectivement, on a un petit peu modifié la fin des masques de Nyarlathotep. Donc, c'est un peu c'est la grosse information de la soirée.
Voilà. Attention.
Attention, accrochez-vous. Donc, initialement, la campagne se terminait sur l'explosion de la fusée à Shanghai, avec des cérémonies qui se déroulaient en même temps au Kenya et en Australie, point qui n'était absolument pas abordé dans la campagne. Donc, du coup, on s'est dit, mais on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible.
C'est pas possible!
Et du coup, on a décidé de les développer, et à tel point qu'on a décidé de les développer, on a même décidé de les mettre toutes ensemble, de les mixer, et d'ajouter un final encore plus cataclysmique que le final.
Selon la réussite des investigateurs.
Selon la réussite des investigateurs, voilà. Donc on lit en fait les trois interventions, et on a ajouté aussi des ouvertures de portail qui permettent de passer d'une scène à une autre. Donc un peu comme une téléportation.
Mais bien amené.
C'est pas brut de fonderie comme ça.
Non, c'est pas brut de fonderie comme ça. Mais ça permet voilà une intervention des investigateurs plus présente et de faire échouer quel que soit l'endroit du monde où ils se trouvent finalement au moment de la cérémonie finale entre ces trois localisations, de pouvoir intervenir aussi ailleurs et de limiter voire d'annuler complètement la cérémonie.
On a finalement trois niveaux de fin. On peut finir la campagne de trois bonnes façons, sachant que il y en a une qui est meilleure que les autres, mais chacune peut être finie en ayant détruit un, deux ou trois des portails.
Des degrés de réussite plus ou moins importants, ce qui était suggéré dans la version précédente.
Avec l'œil de l'œil.
Vraiment, on a enfoncé le clou avec vraiment un niveau que l'on peut constater. Carter, toi qui as brillamment rédigé ces visions de fin du monde, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ça, qui est un atout intéressant aussi?
Bah, disons qu'au niveau des fins du monde, donc on a souhaité fournir quatre cycles de fin du monde différentes. Alors bon, ces fins du monde décrivent donc dans l'éventualité où les investigateurs auraient échoué malheureusement, ce qui peut se produire, à mon avis, maintenant.
Même si vous avez une bonne équipe, il n'y a aucune raison.
Donc, effectivement, donc, on a proposé donc, quatre versions de fin du monde, donc, dans un style, assez littéraire, on va dire, par chacun d'entre nous.
Sans doute pas, un magie,
non plus. Donc, après, vous êtes libre de les utiliser, d'en faire un peu ce que vous voulez, de vous en inspirer, afin, donc, justement, de donner un peu plus de saveur et de couleur à votre finale.
La preuve qu'on n'avait pas d'idée préconçue, c'est qu'on n'a pas réussi à converger vers une seule fin du monde. Finalement, on s'est aperçu que chacun pouvait mener la campagne comme il voulait.
On avait tous notre vision.
Voilà, exactement.
Et on avait la possibilité de proposer différentes variations. Donc finalement, on n'a pas boudé notre plaisir.
Non.
Et on vous les a toutes présentées.
Pas de compromis, on fait tout.
Et au-delà de la fin du monde, Carter, il y a aussi les personnages pour aller au-delà.
Oui.
On va dire dans l'éventualité d'un après-masque.
Alors, si vous en demandez encore et si vos investigateurs sont toujours vivants, ou du moins certains.
Enfin, surtout dans l'éventualité malheureuse où ils arriveraient à défaire la cérémonie.
Oui, hein, bien sûr. Tout à fait.
Il joue les plans
de Monsieur N. Donc, effectivement, On a constaté que certains PNJ récurrents pouvaient être réutilisés au-delà de la campagne. Donc, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a un grand méchant qui était déjà présent dans les ondes de Yopsotop.
Carl
Stanford, qui est également présent dans cette campagne-là. La reine Nitocris qui devrait ou non être ressuscitée au Caire. Donc, vous pouvez également utiliser à bon escient pour poursuivre en fait l'aventure.
Ouais, et là une grosse campagne, enfin un point qui n'a jamais été exploité pour lui.
Tout à fait. Monsieur N, bien sûr, puisque bon, ça reste tout de même un dieu, je doute qu'il, si les investigateurs contrecarrent ses plans, restent les bras croisés à ne rien faire.
Caramba,
Et enfin, nous avons également inclus Roger Carlyle, qui potentiellement, comme il est au bord de la folie, pourrait basculer. Et comme il est marqué plus ou moins par le dieu Nyarlathotep, nous avons estimé qu'il pouvait être passé sous le côté obscur, enfin du côté obscur, et servir en fait les desseins de son nouveau maître. Et donc pourquoi pas revenir quelques temps plus tard, reprendre les rênes de l'entreprise, et puis pour étendre en fait les activités du culte à travers le monde.
En fait, on a justifié que un jour ou l'autre, l'une de nos fins, elle arriverait. C'est une question de temps.
On l'avait prédit.
De toute façon, les investigateurs ne font que repousser l'inévitable. Et ça, quand les astres seront propices.
Et pour les mettre, pour vous mettre dans le ton, ce dont on n'a pas parlé, mais on vous propose pour la première fois en France une nouvelle traduction de la fameuse nouvelle de Nyarlathotep de H.P. Lovecraft, réalisée par De Marigny, ici présent.
Merci.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai.
Et on peut même dire que, au-delà de cette nouvelle, tu nous as préparé une surprise dont on ne peut pas trop parler, mais.
Oh là là, mais c'est bien.
Mais on en entendra parler.
Mais on en entendra parler. Ah. Nous en resterons là, alors, pour ce soir. Avant d'attaquer les chapitres un par un, en vous détaillant ce qu'on y a ajouté, ce qu'on y a modifié et tout ça, on va vous faire une petite passe qui est assez importante. On pense sur ce dont on vous a parlé dans le précédent podcast sur les masques. Le squelette du scénario, de chacun des scénarios, le squelette qu'on s'est donné, qu'on a respecté sur les 6 chapitres et qui va vous permettre de vous y retrouver facilement. Donc c'est assez simple, il y a une bonne part de gabarit sans détour, plus le gabarit qu'on s'est fixé nous-mêmes. Donc ça commence par une petite phrase introductive, on attaque assez rapidement Carter par
l'entête sans détour, à savoir donc une petite phrase d'accroche, un petit résumé du chapitre en quelques mots, la partie en jeu donc avec les différentes étapes importantes du chapitre.
Ce qui manquait beaucoup dans la première édition, c'est que là en une vision on a toutes les parties.
Toutes les parties importantes du chapitre, tout à fait. Une partie ensuite ambiance, qui décrit en quelques lignes l'ambiance type.
En quelques lignes, je pense par ensuite sur la présentation.
Sur la présentation. Une partie récompense, gain de santé mentale et de mythe de Cthulhu. Et enfin, donc, la fameuse fiche technique avec les notations de 1 à 5 que maintenant vous êtes familiarisé avec.
Après Yoda, on poursuit sur.
Sur la partie, donc là, on va présenter vraiment le chapitre dans son approche littéraire et contexte historique. Grosso modo, on va attaquer une partie de tout ce qui est cadre et ambiance, qui fait la spécificité et le caractère de chacun des lieux que les PJ vont visiter. Ensuite, on aborde tout ce qui est généralité. Bon, on parle aussi bien de la météo qui fait et puis de l'organisation géographique de la contrée visitée. Ensuite, toujours dans le chapitre, on aborde tout ce qui est des informations que l'on a jugées pratiques, c'est-à-dire tout ce qui va servir aux gardiens pour gérer le quotidien. Donc on parlera aussi bien de tout ce qui est banque, monnaie, la façon dont sont gérées les forces de l'ordre. Ensuite, tous les moyens de communication qui sont disponibles, parce qu'au final, on s'en sert quand même très très régulièrement, et tout ce qui est moyens pour se déplacer, les endroits où sortir et les centres d'intérêt qui forment les villes que l'on va visiter. Une dernière rubrique, toujours transverse, je vais essayer de développer, mais c'est toute la partie qui est intrinsèque au culte des chapitres concernés. Donc, pour aller dans ce moment, vas-y.
Ouais, voilà, donc là, chaque culte, en fait, est décrit. Donc, on met bien évidemment en avant, on va dire, la tête du culte, celui qui le dirige. Et on parle après également des cultistes qui lui sont rattachés. Une partie très importante aussi, parce que tous les cérémoniales qui sont ceux du culte et qu'on va retrouver, donc soit des cérémoniales hebdomadaires, mensuelles, et puis également les cérémoniales très très spécifiques, notamment pour les trois chapitres finaux, les cérémoniales qui correspondent à l'ouverture du portail.
Là, on les a bien extraits pour que justement on est dans une seule partie dédiée au culte. Tout ce qui le concerne n'est pas avoir à aller chercher ça un peu partout dans le scénario en fonction d'une pseudo-chronologie.
Voilà, donc c'était réparti, on va dire, au moment où les investigateurs étaient susceptibles de rencontrer ces cérémonies dans le scénario. Là, effectivement, ça a été extrait, c'est générique, c'est facile d'accès.
On a ensuite donc leur lieu de rencontre, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut les retrouver, des bars, des endroits où ils peuvent, je dirais, zoner. Et ce dont on vous a parlé dans le premier podcast, c'est-à-dire les relations avec les autres cultes, s'ils sont en communication directe, si la fréquence des rapports que peuvent faire les cultes les uns aux autres.
Puis aussi, il y a tous les échanges, on va dire, culturels ou d'œuvres d'art, parce que ça a une grosse part aussi, on va dire, de l'originalité des cultes dans les masques de Nyarlathotep. C'est vraiment cette communication et avec leur diversité,
voilà.
tout ce qu'on peut retrouver. Il y a un petit peu aussi, chaque culte fait du pillage, hein, un peu local, et puis après envoie à un autre culte situé à l'autre bout du monde vraiment ce qui l'intéresse en direct.
Exactement.
L'idée, c'était vraiment de donner un caractère propre au culte de chacun des pays que l'on va visiter pour comprendre comment ils réagissent et comment pensent leur grand groupe.
Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, donc hein, la fameuse partie aventure, en commençant avec donc la partie que devrait-il se passer, où en fait on va, pour chaque chapitre, on va avoir un petit tableau récapitulatif des pistes principales dédiées à ce chapitre.
Les unes les reliées avec les autres,
voilà.
C'est-à-dire comment on arrive ici
et où on va, ouais, tout à fait. Suite à ça, donc on aborde en fait la partie sur les traces de l'expédition Carlyle, donc on retrouve en fait des éléments dédiés à l'expédition qu'on peut retrouver en fait dans le chapitre.
Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici?
Mm-hmm. Tout à fait. Ensuite, on a donc la partie à la poursuite avec Jackson Elias, où là, effectivement, on retrouve tous les éléments liés à Jackson Elias vis-à-vis du chapitre en question, ce qu'il a amené à ce chapitre-là et ce qu'il a pu...
Là, on a vraiment, on a vraiment deux parties qui nous permettent finalement d'avoir deux trames de fond sur toute la campagne, c'est-à-dire soit... Des investigateurs peuvent être sur la piste de l'expédition pour vraiment retracer ce qu'elle a fait, et là ils ont des informations dans la première partie dont tu as parlé, et sinon, si vraiment ils ont pris leur parti de suivre Jackson Elias et de savoir comment il en est arrivé à New York, il est remonté à l'envers, dans cette partie-là, on leur explique où est-ce qu'il en était à ce moment-là, quoi.
Alors donc, juste une petite parenthèse justement sur ce début de la rubrique aventure qui va nous intéresser. On a repensé complètement les masques, comme on l'a abordé plusieurs fois dans le podcast précédent, sur la catégorisation en fait de l'aventure. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que dans chacun des chapitres, il y a plusieurs niveaux de pistes, des niveaux qui vont nous intéresser de prime abord, c'est-à-dire des éléments qui sont absolument essentiels pour pouvoir découvrir la campagne. Et donc, on a trois niveaux d'importance dans chacun de ces chapitres. Les premiers qui sont... Comment ça s'appelle,
ça? Les pistes principales.
Les pistes principales, voilà. Donc, on ne peut pas passer à côté. Les pistes secondaires, qui apportent du plus et des informations complémentaires, et les pistes bonus.
Les fausses pistes.
Les fausses pistes, c'est ça. Donc, de la même manière, tout ce que vous retrouverez dans les pistes croisées, donc le gros tableau récapitulatif de l'aventure, tous les éléments qui sont que les joueurs devront connaître sont catégorisés comme importants, et le reste des informations, soit c'est de la redondance, soit c'est des informations qui peuvent être jugées superflues.
Donc là, on a attaqué ensuite la partie casting. Comme on vous l'a dit, on a exporté donc les PNJ qu'on a là aussi trié par leur acquaintance avec les investigateurs, donc que ce soit des alliés, des ennemis, peut-être même des indépendants, hein, comme il y en a souvent, qui n'ont pas vraiment de, qui sont pas rattachés à l'un ou l'autre camp. Et on termine par la bleusaille, les figurants, ceux qui sont là pour mourir.
Se saluent. Pour servir.
Pour servir, pour mourir, enfin, les petites mains. Et enfin, tous ceux qui vont intervenir. Tout ça pour terminer sur.
Voilà, en fait, on a réuni ensuite tous les autres éléments, on va dire un petit peu annexes, mais qui sont liés au mythe. Donc toutes les informations sur les ouvrages, sur les sorts, sur les objets, et puis sur les monstres qui peuvent être rencontrés à l'intérieur de ce chapitre, de manière à avoir aussi un unique endroit toutes ces données pour que ce soit plus facilement accessible pour le gardien.
De la donnée technique comme du descriptif, enfin, c'est là où on a extrait vraiment les données de tous les ouvrages.
Voilà, donc là effectivement, toutes ces informations n'étaient pas initialement présentes dans la campagne d'origine, et on a récupéré les différents autres suppléments ces données, de manière à pouvoir avoir, comme on a dit dans le précédent podcast, l'ensemble des informations pour le gardien, et donc une autonomie complète à travers la campagne. Donc tous les monstres sont décrits, tous les sorts sont décrits, tous les ouvrages également, et tout a été remis à la source, c'est l'édition V6.
Donc tout ça, c'est pour bien présenter le gabarit et la philosophie qu'on s'est imposée pour pouvoir rendre les informations très rapidement accessibles pour faciliter le travail du gardien.
On aborde chaque chapitre de la même façon.
New York.
New York.
New York.
Donc tu
Il est tard.
Donc on vous a dit qu'on a un peu restructuré la campagne pour la rendre non linéaire et pour la modifier, mais le fait est que commencer par New York va un peu de soi. Qu'avons-nous changé à New York? On a beaucoup renforcé les New York, notamment on va commencer par les méchants. Les méchants à New York, c'était un peu la boutique Boujou, et puis c'est tout, et ceux qui en est autour. Ils ont maintenant des réunions pour eux, hein, dans la semaine, dans la journée. Ils ont des endroits pour se réunir. Ils ont d'autres têtes que la seule tête pensante.
Des lieutenants, oui, tout à fait. Oui.
Des cris. Ils ont, ils ont une véritable activité. Et autour de ça, et autour de la boutique Juju, on a voulu, redispatcher les indices et faire que la boutique Juju devienne un peu un point central vers lequel mènent d'autres pistes, des mercenaires importent ou ce genre
de... Oui, c'est ça, en fait. On a vraiment souhaité développer des pistes, puisque dans l'édition d'origine, que ce soit la version boîte ou la version intégrale, révisée, c'était que, il y avait un seul indice qui menait à la boutique Juju en début de chapitre. Vos investigateurs passent à côté, et ils peuvent s'asseoir pour redécouvrir la boutique Juju, à moins de faire en sorte que le FJ puisse bidouiller pour les rediriger vers la fameuse boutique. Donc du coup, c'est vrai qu'on a effectué un gros travail de mise à jour de pistes, que ce soit intra-chapitre ou vers d'autres chapitres, comme c'est le cas de l'Australie notamment, qui contenait dans la version précédente que très peu de pistes qui menaient vers ce chapitre-là. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a effectué un gros travail.
On peut aller vers l'Australie déjà, des chapitres de New York.
Tout à fait, ouais.
Donc ça, ce sont les principaux ajouts. La boutique Juju en elle-même est devenue un vrai lieu à part entière et pas une simple impasse vers laquelle on était mené et on ne savait pas trop pourquoi on devait rebondir et aller autre part. C'est devenu vraiment un point de passage qui mène vers le reste de l'aventure.
Voilà. Donc il y a différentes choses encore qu'on a développées dans ce chapitre de New York, puisqu'on avait un certain nombre de pistes, notamment il y a rencontrer Erika Carlyle.
Oui.
Erika Carlyle, c'était quand même un personnage très important, très central. Il y a beaucoup de choses à trouver aussi dans sa maison.
Ouais.
En revanche, c'est quasiment impossible de la rencontrer.
Ouais.
Donc ça demandait des efforts assez désespérés de la part des investigateurs pour arriver à leur fin. Donc là, on a ajouté d'autres possibilités de la rencontrer pour faciliter l'interaction entre cette personne et les investigateurs, et aussi le fait de pouvoir aller visiter avec ou sans l'accord de Madame Carlyle son coffre-fort.
C'est-à-dire que ce que tu disais, Yoda, c'est que les pistes principales, on a essayé de développer autour un petit réseau de pistes vous y menant. Il n'y a plus qu'un seul chemin pour y aller, et si vous le ratez, ce que disait Carter, vous passez à côté. Là, vous avez toujours la possibilité de rebondir et de revenir sur ce lieu par différents côtés du scénario.
On avait également Emerson Porte, qui est un point par lequel le culte de la langue sanglante fait ses échanges avec le reste du monde. Donc c'était très peu détaillé initialement, alors que pourtant il est conseillé aux investigateurs d'aller visiter l'entrepôt de nuit. Donc on a détaillé en fait plus amplement cet entrepôt Emerson Port, et notamment les locaux, le bureau du directeur
et les registres
à Yoda.
Écoutez, comme la même philosophie que les tableaux croisés, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va, comme toujours, on renforce les liens et on encourage tous les PJ à se poser des questions sur les différents lieux de livraison du culte. Donc même si la première fois que les joueurs vont se retrouver devant cet énorme registre de livraison, ils ne vont peut-être pas prendre conscience de toutes les informations qui sont disponibles, mais au fur et à mesure de leur aventure, ils vont s'apercevoir qu'il y a énormément d'infos et que toutes les pistes peuvent les amener d'un côté à l'autre du continent.
On en a profité également, la secte avait déjà plusieurs victimes à son actif, hein, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de développement des victimes précédentes du culte, afin justement de, au besoin, que ces investigateurs effectuent des recherches sur les précédentes victimes liées au culte et au meurtre rituel, puissent en fait découvrir différents articles de journaux avec différentes identités en fait de personnages qui ont été la cible des membres de cette secte.
Alors bien sûr, à vous de gérer, mais ça peut vous donner ça peut vous ouvrir le scénario vers d'autres scénarios, d'autres horizons, et faire le tour des victimes. Il y a aussi donc comme personnage assez central Jonah Kessington, qui dans la première version était juste là pour parler de son employé Jackson Elias, qui là cette fois-ci,
et puis donner les informations aussi aux investigateurs.
Hein. Oui,
c'est un peu l'aide de jeu dealer.
Et vous voulez les infos, alors que là cette fois-ci ce que tu disais Yoda, c'est qu'il devient un peu le point de backup, le fil rouge, celui qui peut maintenir finalement la cohésion de l'équipe sur toute la campagne.
Bien sûr, c'est un élément qui va être renforcé par d'autres PNJ importants, mais au démarrage, au moins, on s'assure de quelque chose d'un gros transfert d'informations qui vont vous permettre de renseigner vos joueurs, et puis peut-être par la suite continuer à faire venir d'autres joueurs si votre groupe venait à disparaître.
C'est une option. Et c'est vrai que en plus, c'est une personne qui connaissait bien Jackson Elias et qui a tout à fait une vraie justification à vouloir enquêter sur ce qui s'est passé et à remettre des gens sur le sujet.
Bon, on va aborder maintenant le chapitre londonien.
Oui, un jingle.
Donc, ce qu'on a fait déjà, c'est vrai qu'à l'origine, ce chapitre contenait plusieurs scénarios fausses pistes. On avait une avec une histoire de loup-garou et une autre de créature dans le brouillard. Et la dernière, donc, on a conservé par contre, qui concernait donc le serpent et le peintre. Mm. Donc c'est vrai que donc on a fait un peu du ménage au niveau des fausses pistes, parce que on estimait que ça ralentissait un peu le cours du récit, ça apportait rien. Donc
c'était pas vraiment d'ambiance.
On avait décidé de conserver juste celle avec l'homme serpent, qui nous paraissait pertinente en termes d'ajout de modification pour ce chapitre-là.
Alors en plus de cette fausse piste, pour les pistes principales et les méchants, les ennemis, on a quand même rajouté ce qu'on a appelé la brigade légère de Gavigan,
Voilà, donc là il s'agit de trois personnages qui manquaient à la campagne, parce qu'en fait Jackson Elias était poursuivi, mais on ne sait pas trop par qui. On savait qu'il y avait des sbires du culte qui étaient à ses trousses. En fait, ce sont ces personnages-là, ce sont eux qui étaient venus dire au culte de la langue sanglante que Jackson Elias était revenu à New York pour qu'ensuite il l'assassine. Et de retour à Londres, si jamais les investigateurs sont indélicats face à Gavigan, Gavigan va mettre ces trois personnages-là à leur trousse. Et ensuite, on peut continuer à les conserver comme personnages récurrents en se déplaçant de continent en continent.
Dans l'ombre. Ouais, ils ont le bras long et peuvent se déplacer et auront. Ce n'est pas du cultiste de base.
Voilà, c'est aussi un point, enfin, c'est un petit peu en relation, on va dire, avec l'Australie, où on envisageait que ce soit les responsables australiens qui puissent lancer une action vers les investigateurs, sauf qu'en fait le culte australien est bien occupé de son côté et un petit peu à l'écart. Donc c'était beaucoup plus logique que Gavigan, qui lui au contraire a les mains libres et n'a rien de particulier à faire,
il y a les ressources,
prenne cette responsabilité là et à partir du moment où les investigateurs deviennent trop présents, il envoie ses hommes.
Est-ce que tu peux développer aussi un point non négligeable de l'ajout, c'est l'interaction qu'il y avait entre
Tufik
et Tufik.
Voilà, donc Tufik et Gavigan donc sont un peu tous les deux à la tête en fait de la fraternité qui sévit à Londres, l'un parce qu'il a la fortune, l'anglais. Et l'autre, parce qu'il est le lieutenant du culte, l'Égyptien. Et donc tous les deux se retrouvent en concurrence pour vraiment être responsable du culte. Donc ça peut donner des avantages à certains moments aux investigateurs selon la manière dont le gardien
souhaite en jouer,
pour en jouer. Et ça peut même aider les investigateurs à certains moments.
Alors, surtout que, ils vont arriver à la fin que l'on connaît dans la maison Mistre, un endroit qu'on a décrit, que l'on a situé, enfin, on sait à quoi ressemble les sexes, c'est gros et connu, non, je déconne, on sait que ça se situe sur la côte est de l'Angleterre, le côté marécageux et tout ça, et on a même fourni à vos équipes une aide non négligeable, n'est-ce pas Yoda, en la matière des bobbies. Ce groupe de bobbies qui peut venir si vous sentez vos investigateurs partir vers autre chose que monter dans la camionnette de la pyramide bleue et arriver là-bas, ou alors suivre une des camionnettes et finalement rester en planque. La scène est quand même assez délicate. On a eu beau revisiter un peu le nombre de monstres et tout ça, elle en reste pas moins mortelle. Et là, vous avez sous le coude une bonne troupe de bobbies. Pas forcément imbibé, mais disons assez motivé et assez ignorant de ce qui peut se passer dans le château pour venir aider vos investigateurs, et ce qui peut faire tout à fait une nouvelle fin. Et comme on nous l'avait proposé dans les forums, l'un des investigateurs peut tout à fait avoir été enlevé carrément, et ce sont les bobbies qui vont finalement mener un assaut contre la maison pour venir libérer
une force de frappe, ou bien au contraire, malheureusement pour eux, un moyen de détourner les monstres des investigateurs.
Voilà, à double tranchant.
Vas-y.
Sachant quoi, effectivement, comme on l'a indiqué, c'est qu'on a revu un peu à la baisse le niveau des monstres au chapitre londonien, parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine incohérence et une certaine force de frappe qui était un peu trop violente vis-à-vis des investigateurs et qui risquait en fait d'en faire de la chair à pâté. Donc du coup, on a un peu harmonisé et revu à la baisse cette force de frappe. Afin de rendre un peu le tout plus cohérent.
Petit élément complémentaire, une petite parenthèse, on a revu aussi la partie du vent d'ivoire, puisque c'était au final un élément qui était abordé uniquement à Londres, alors que au final il dessert quand même les ports de Port Saïd et de Shanghai, donc un élément quand même qui relie trois destinations très importantes. Donc ça a été renettoyé et surtout réexpliqué de manière à ce que le gardien et joueur comprennent qu'il y a peut-être un lien entre ces trois destinations. Ah,
Donc ensuite, on arrive dans le chaud désert de l'Égypte avec le Caire. Donc, un gros chapitre qui était surtout en fait
le bordel,
un gros souk.
Philippe Souk.
Avec tout mélangé dans tous les sens, très difficile à comprendre, et du coup un énorme travail de refonte.
Bon, gros travail de refonte parce que tous ceux qui l'ont lu s'en souviennent ou ont oublié parce que c'était très confus. Il y en avait partout, dans tous les sens, et donc voilà, je reprends les mots de Dem, hein, qui on a tout reventilé, tout complété, et tout beaucoup réécrit de paragraphes, pour mettre en exergue le rôle de chacun, et les éléments qu'on pouvait trouver, parce que tout ce qui était pyramide n'était pas forcément clair. Certains se rappelleront de la pyramide
rotondale,
voilà. Après, tu entends la pyramide rouge, tu entends la pyramide inclinée.
Elle est rouge, la pyramide inclinée.
beaucoup de confusion, donc ça a été vraiment éclairci en profondeur.
Et surtout que la trame se déroule sans les investigateurs. Ils ne sont pas le centre d'intérêt.
Ce qui était le cas de la précédente version.
Voilà, en réalité, ils viennent être. Ils se trouvent être le grain de sable. Rigoler. Le grain de sable dans les fameux rouages de la fraternité. Donc c'est vrai que au-delà de la réorganisation et de la réécriture et des explications, plus des ajouts comme d'habitude comme à chaque fois sur le cadre.
Et énormément d'informations rajoutées sur Port Saïd et Alexandrie.
C'est vrai, on était téléporté au milieu des pyramides.
Oui. Et donc on a tout complété. Il y a un gros boulot là-dessus. Bon, on ne développe pas parce que c'est du contexte, on ne revient pas sur le contexte, mais énormément d'informations là-dessus.
Et puis ça pour permettre en fait déjà qu'un enchaînement des informations et du récit de l'aventure qui soit clairement plus cohérent que ce qu'on avait auparavant, puisque c'est vrai que c'était un peu dispatché différents éléments, différents endroits du chapitre. Et c'était clairement pas évident pour s'y retrouver.
Il n'y a plus de téléportation entre Londres et le Caire.
Et en plus, on vous a pas donné, enfin, on vous donne d'autres possibilités que de gérer la fameuse scène de l'apparition de Nyarlathotep,
oui.
Qui, pour ma part, m'a valu bien des déboires. Et on vous propose d'autres. Il est bientôt là. On vous propose d'autres façons d'aborder cette scène où, quand même, les investigateurs sont censés rencontrer un dieu. Et
ce n'est pas anodin.
Voilà, ce n'est pas anodin, et c'est vrai que c'est amené de façon très très dongesque avec cette espèce de pseudo mise en scène, sans vraiment d'intérêt.
Après, si je me souviens bien aussi, on a retravaillé un petit peu certains des les premières aides en fait sur place des investigateurs. Parce qu'ils se retrouvent à devoir interagir à un moment donné avec des musulmans. Des personnages qu'on retrouve dans une mosquée et qui doivent les aider, qui doivent se mettre d'accord, voilà, pour lutter contre la réapparition de la reine Nitocris. Et là, toute cette partie-là aussi était vraiment difficile
à
mettre en œuvre, à démêler.
Mal traduite.
Et puis aussi, c'était pas placé dans un mode de fonctionnement historique. C'est-à-dire que les éléments, le déroulement du scénario n'était pas dans le déroulement normal de l'histoire tel que les investigateurs pouvaient le vivre. Mm-hmm. Mais c'était plus des petits ajouts à droite, à gauche. Donc tout ça n'avait pas vraiment cohérence. Donc là, on a refait quelque chose en deux blocs. Là, où on explique vraiment à quel moment ils servent, comment ils sont susceptibles d'accueillir les investigateurs. Et de quelle manière il pourrait accepter de les aider.
Bon, là, on continue avec l'Afrique.
Saga Africa.
Et on arrive au Kenya. Alors, là, au Kenya, bon, c'est pas très compliqué. Au début, il n'y avait rien. Donc, on a récupéré la campagne, c'était plutôt venteux et très creux. Bon, affaire à suivre, et puis
on va vous tâcher d'en voir.
Comme disait Dem, on résume en un mot, passage suivant. Là, c'est deux mots.
Impossible à décrire, on ne savait pas comment le décrire.
Oui, parce que cette époque-là, les données sur 1920 sur l'Afrique, à cette époque, c'était pas facile à trouver.
Des PNJ qui sont axés sur l'opposition blanc-noir, mais qui n'ont aucun rapport avec le mythe et l'aventure en elle-même.
Donc là, on a gratté, on a trouvé plein de choses. On vous a trouvé des trucs super. Et on a même profité pour ajouter une existence réaliste à Mombasa, puisque c'était vraiment juste un semaine de passage au départ, on se retrouvait téléporté rapidement à Nairobi sans comprendre ce qui se passait à Mombasa. Donc on a développé cette ville pour expliquer au moins aux joueurs que les échanges qui peuvent se faire par les registres, dont on a déjà parlé, tous les échanges inter-occultes se passent et transitent par Mombasa, qui ensuite achemine tout le matériel jusqu'à Nairobi. Donc,
ceci
grâce aux jumeaux, Carter, à toi.
Parle des jumeaux.
Oui, donc en fait, c'est vrai qu'au départ, donc à Mombasa, donc on avait Tambour Singh, donc le fameux épicier qui tenait sa boutique. Et assez vite, comme c'était l'une des seules forces en présence, sur cette ville susceptible de mettre des bâtons dans les roues des investigateurs.
Mais pas assez, on a mis les pieds.
Voilà, on a décidé en fait de...
Deux Tambour Singh.
Voilà, deux Tambour Singh pour le prix d'un. À savoir, donc, on est parti donc sur pour transformer donc Tambour Singh en l'identité de deux frères jumeaux. Donc Vikesh et Aresh Singh, c'est si je ne m'abuse. Donc chacun endosse l'identité de Tambour Singh au besoin, pendant que l'autre puisse continuer à vaquer aux occupations
d'un secte. Un gros ressort scénaristique qui peut finalement vous amener à faire du Kenya un scénario parmi les meilleurs. Enfin, le fait que cette personne que les investigateurs vont toujours retrouver sur leur route, mais qui à chaque fois aura un petit moment d'avance ou sera au courant de ce qui s'est passé avant, ça risque, enfin, à vous de jouer avec.
Ça va surprendre, mais passer du temps à bien réfléchir à l'exploitation de ce ressort scénaristique.
Voilà, parce que donc on l'a revu eux deux, et on a aussi passé un coup de polish sur le vieux Bundari. Le vieux Bundari, souvenez-vous, hein, cette espèce de d'homme à mi-chemin entre un sage et un vendeur du téléachat. Une sorte de
performance
kényan avec Marise, apporte-moi la tapette à mouche. Donc fini là, ces conneries, la tapette à mouche, le reptile qui
n'est pas le caméléon géant.
Voilà, le caméléon géant qui est censé aider les investigateurs et moi qui les avais toujours fait rire. Non, le vieux Bundari est un à nouveau, hein, a repris ses vraies fonctions d'un espèce de mystique animiste au fin fond de la forêt kenyenne et qui, bon, on ne peut pas tout vous dire non plus hein, ce soir, mais qui va offrir un vrai cadeau. Et quand on dit un vrai cadeau aux investigateurs, c'est forcément, hein, vous commencez à nous connaître, un cadeau à double tranchant. La part qui devra les aider pourra aussi se retourner contre eux parce que, comme on vous l'a dit et on vous le rappelle, c'est que le Kenya fait partie des trois chapitres qui peuvent servir de fin à cette campagne. Non pas qu'ils n'ont pas plus loin que le Kenya, mais on peut boucler la campagne après les cinq premiers chapitres par le Kenya. Et je pense que la revue du sacrifice final et de la scène finale est pour cela pas très importante.
Voilà, en effet. Donc on avait jusqu'à présent, le point principal du Kenya, c'était surtout la grosse cérémonie qui permettait la naissance du rejeton. Sauf que cette naissance se situe quelques mois avant la cérémonie définitive qui est celle de l'ouverture du portail. Et là, maintenant, le rejeton est adulte. Sauf que cette partie-là avait été complètement oblitérée dans la version originale. Et ce manque est absolument insupportable. Ça devait d'être comblé.
Et sans rêver, Toc l'a fait.
Et Toc l'a fait. Donc, on explique suite à sa naissance comment le rejeton ensuite va être amené à se développer, à grossir et au final être celui qui mène ce grand rituel d'ouverture du portail et jusqu'à également se débarrasser de Mouerou qui finalement nous gênait.
Meradigne.
Voilà, Meradigne, je te demande, je ne sais pas.
Donc là, on a vraiment basé sur le côté un peu tribal, la nature et ce genre de choses. On a gardé cet aspect du scénario. Et là, on a une vraie fin cataclysmique avec cette pierre angulaire. Donc, on vous a dit, hein, les trois, on va attaquer les deux autres maintenant. Mais les trois angles de finalement cet immense portail, cet immense plan de Nyarlathotep pour venir à bout de l'humanité.
Ouais, si jamais effectivement les investigateurs arrivent au Kenya, on va dire plutôt vers la fin, au moins il se passe quelque chose maintenant.
Quelque chose de grandiose.
Et en respect avec le thème, nous sommes dans le tribunal.
Exactement.
Petit nota que vous remarquerez, certains se souviendront que la scène du charnier
était, comment dirais-je, pas très très clair. On savait pas qui avait découvert quoi, à quel moment, pourquoi, est-ce qu'il y avait les corps ou pas. Mais voilà, ça, on l'a repris de manière claire et pour que tout le monde comprenne réellement ce qui s'est passé.
Et c'est maintenant que nous abordons ce nouveau continent, l'Australie. L'Australie, c'est des didgeridoos, c'est kangourous boxeurs et farceurs.
Nous prends pas pour des cons, de Marie. Toi qui as beaucoup bossé sur l'Australie,
il a tout perdu là.
Quoi de neuf en Australie dans cette nouvelle version des masques?
On peut dire à peu près tout.
Ah oui?
Donc voilà, parce que l'Australie initialement c'était
cette grosse verrue, cette
repompée de Terror Australis, hein, qui de toute façon était lui-même tiré initialement de ce travail de masque, mais qui n'avait pas été mis dans la version originale, qui a été ajoutée dans la seconde édition, dans le livre. Donc l'Australie en fait était un petit peu bancale. Pourquoi? Parce qu'on arrive par différents bouts de l'Australie, ensuite on découvre la petite ville de Kekenjeri pour ensuite s'enfoncer dans le désert et se retrouver dans la cité sous les sables.
Impossible de savoir par où on est passé.
Voilà, impossible de savoir par où on est passé, manque de détails. Et surtout, une fois dans la cité sous les sables, finalement, on se retrouve face à Houston, on dégomme Houston, et c'est fini, au revoir.
Ah ben voilà.
Cela dit, Houston qui accueille les investigateurs avec du thé.
En effet, très, très, très accueillant, cet ancien psychologue devenu totalement fou, mais un hôte
de grande classe.
De grande classe, on peut dire.
Donc, premier point sur lequel on est revenu au niveau déjà des pistes et des pistes secondaires.
Donc au niveau des pistes, alors surtout pistes, on a ajouté en fait surtout le rêve de Bellip, qui est un scénario qui était disponible précédemment uniquement dans Terror Australis, parce qu'on n'avait pas de véritable fausse piste jusqu'à présent. Donc en plus on l'a relocalisé, rêve de Bellip, de manière à pouvoir le jouer un petit peu dans n'importe quelle ville. N'importe quelle grande ville. Donc on l'avait dans
Melbourne. Non, il a été relocalisé, rééclairci, corrigé. Un grand mot au-dessus, hein, merci Carter, tu pourras me parler s'il y a besoin. Hein,
si on l'a délocalisé pour. Surtout par rapport aux différentes villes évoquées dans le chapitre australien qui pouvait amener donc à Kekenjeri, c'est de permettre également donc avec la ville de Perth, si j'ai bien vu, également de rajouter un élément supplémentaire dans cette ville, même si c'était ça restait donc une fausse piste, un élément pulpique également dans cette
ville. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas directement au désert de sable en passant un peu juste par une ville pour point de passage. Là, il peut se passer quelque chose et voilà, les investigateurs peuvent penser que le scénario se déroulera dans la ville et que c'est là qu'est situé le grand méchant. Mais il n'y a pas que ça qu'on a rajouté.
On a rajouté effectivement tout un tas d'autres choses, donc, puisque dans le pitch initial, Houston, le grand sorcier blanc, arrive et puis remet en place le culte de la chauve-souris des sables et finalement se met à diriger tout le monde sur place. Alors qu'en fait, à l'époque, les aborigènes n'étaient pas du tout aussi accueillants face à l'envahisseur blanc, donc ça ne collait pas tout à fait et en plus, on perdait totalement l'esprit australien et la culture australienne, et notamment la partie de l'Alsheringa, donc le monde des rêves australiens. Donc on a recadré, resitué tout ça en rajoutant un espèce de lieutenant, un sorcier aborigène, qui fait le lien entre Houston et l'Alsheringa, et un véritable défi par rapport à l'ouverture du portail auquel on a surimprimé le basculement de l'Australie, de sa version moderne, à la version Australie-Alsheringa, c'est-à-dire un retour de 60 000 ans dans le passé.
Aïe. Et c'est vrai que c'est là on met un point, notamment sur le fait qu'on a voulu teinter chaque scénario avec une vraie profondeur, une vraie véritable ambiance. On vous a parlé donc de Nairobi en étant tribal, lié à la nature et je dirais à une certaine magie chamanique. Là, dans la partie Australie, on est plus dans le mystique, dans le rêve, dans très lié à la culture aborigène, à la discussion avec les esprits qui, dans le cadre de la campagne, se concrétise de façon assez matérielle, on va dire.
Et on a fait de Houston, alors qui ne se déguise plus pardon, sous de fausses identités foireuses, Houston,
ce qui simplifie aussi le travail des investigateurs pour arriver à le retrouver.
Exactement, au fond de sa cité, et ce qui fait qu'on se retrouve avec un méchant crédible, un méchant complètement différent de Mberu ou de personnes comme Gavigan. Une philosophie complètement différente, quelqu'un qui reste posé et qui va finalement accueillir les investigateurs, non pas benoîtement, mais avec une façade de simplicité qui cache en réalité quelque chose.
Une cervelle même de courtoisie, même, qui, puisque on a décidé donc de garder tout de même l'aspect T précédemment évoqué dans ce chapitre. À savoir qu'en fait, on a souhaité ajouter en fait le fait que Houston en fait consommait à dose modérée du cyanure.
Une espèce de Rasputin.
Oui, une espèce de Rasputin. Encore que c'était même pas du cyanure, c'était en fait une autre drogue en fait qui voilà qui pour lui en fait est devenue lui permet en fait d'essayer de rejoindre en fait l'univers du rêve pour préparer le rituel final. Et les investigateurs qui eux vont y goûter et risquent de se trouver dans une situation des plus inconfortables. Donc c'est vrai que c'était une idée sympathique.
Un ajout et voilà pour rendre vraiment Houston un personnage important et quand même un tantinet plus machiavélique. Hein. On n'arrive pas au cinquième chapitre d'une telle campagne pour tomber sur un espèce de crétin qui vous sert du Twinnings et qui vous demande comment ça va depuis 2 mois.
Et un gros travail du coup, donc aussi avec l'ajout de la cérémonie également finale.
Alors cette fois, deuxième triangle.
Deuxième triangle. Du coup, en fait, on a un triptyque. On a, on va dire, la magie à Nairobi. On a le rêve en Australie et on a la technologie à Shanghai.
Donc. Sachant aussi que on l'a pas évoqué, mais comme ce chapitre était à l'origine le chapitre australien était un ajout. Il n'y avait aucun élément qui permettait en fait de repartir sur d'autres chapitres. Nous en avons profité également au sein du QG de Houston de fournir des fausses pistes.
Pour mener
vers des vraies pistes, des indices pour pouvoir évoluer vers notamment le chapitre chinois.
Parce que je crois que dans mon souvenir, la seule piste qui menait au chapitre australien, c'était le fait que Houston s'y était réfugié à l'origine dans la campagne.
Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de liens qui ont été rajoutés pour renvoyer à New York, pour renvoyer au Kenya, pour renvoyer à Shanghai. Je crois même qu'il y en a par rapport au rendez-vous qui ramène aujourd'hui en Égypte. Mm-hmm. Bref, la boucle est bouclée. Aujourd'hui, on propose un chapitre qui a du caractère propre, intrinsèque et qui est clair.
Alors, anciennement dernier chapitre de la campagne, nouvelle possibilité de clore la campagne parmi le triptyque que vous a proposé entre Nairobi, l'Australie et Shanghai, donc le pays nous tournait en levant. Alors, derrière cette rigolade qui n'est que de façade,
se cache
une complexité qui rappelle un peu celle du Caire. Et un détricotage que tu as été obligé de faire, Carter.
Alors c'est vrai qu'effectivement il y a eu des gros soucis en fait d'agencement et de clarté en fait dans ce chapitre. C'est vrai qu'on c'était un peu fourre-tout. Il y avait des choses qui étaient mal exprimées. Il y avait des éléments qui étaient complètement éludés. Donc
contradictoires.
Donc effectivement il y a eu un gros travail de réorganisation, d'ajout. À savoir, donc, on a commencé notamment avec Machum, puisque c'est vrai que de la manière dont il était présenté, c'était, il ne fournira aucun élément aux investigateurs,
voilà,
parce qu'il a peur. Mais malgré tout, il connaît les informations suivantes.
Bref tout.
Donc, arrangez-vous avec ça. Donc, c'est vrai que c'était pas clair du tout. Donc, on a déjà réorganisé la partie de Machum, à savoir, donc, il pouvait déjà, dès le départ, en fait, même s'il était réticent, fournir de fausses informations aux investigateurs. Et si ces derniers le poussaient à bout, arrivaient à pouvoir à le convaincre,
pouvait à ce moment-là lâcher les informations bon, descend, sur Brady, au Fong, voire l'île du Dragon.
Parce qu'en plus, il n'est pas. Enfin, on le constate rapidement quand on a commencé à clarifier le scénario, il n'est pas le seul PNJ, je dirais solo ou en groupe, qui va intervenir. C'est truffé de
groupuscules. Ah, effectivement, c'est truffé de groupuscules et de PNJ.
C'est peut-être la première fois dans le chapitre de la campagne qu'on va donner à l'occasion aux PJ d'utiliser des moyens de pression pour essayer de faire jouer les groupuscules entre eux, essayer de les faire collaborer. Donc il y a peut-être une nouvelle approche qui est à utiliser pour vos groupes de joueurs pour pouvoir justement jouer ces différents cercles.
Car c'est un scénario qui se veut et qui est difficile et qu'en effet on ne va pas pouvoir résoudre de façon totalement linéaire en attendant que ça arrive, les confrontations avec au fond, je fais péter la fusée et je rentre chez mémé.
Voilà, là, parce que aussi le contexte politique local est très instable, donc du coup on a aussi beaucoup d'agitation.
Ça a été expliqué pour ceux qui ne connaissent pas les cours d'histoire. Ouais, c'est le bordel en 1920.
Voilà, et là, ça a été redétaillé aussi un petit peu sur cette partie-là pour mieux comprendre comment aussi les investigateurs peuvent arriver à traverser tous ces éléments, bien qu'en ayant tout un culte dans leur dos.
En fait. Tout à fait. Et comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait rapidement se servir, et facilement maintenant avec la nouvelle version, se servir de ces éléments et des antagonismes entre groupes pour finalement se retrouver avec des alliés inattendus, peut-être parfois des anciens ennemis qu'on croyait, ou alors des gens qu'on croyait des ennemis et qui vont s'avérer être des alliés pour finalement se retrouver face à au fond.
Autre élément concernant Jacques Brady. Jacques Brady est également très très difficile à déterrer et
est pas mort.
et balancé énormément d'informations d'une manière un peu anarchique. Donc là, le travail de l'équipe a été de proposer divers axes de manière à retrouver Jacques Brady. Donc un très beau travail de démêlage.
Avec la chine nouvelle, avec...
Ah oui, bah, tous les muscles sont liés. Ouais.
Et aussi la possibilité d'aller retrouver Carlyle.
Car on a enfin les caractéristiques de celui par qui tout arrive, Roger Carlyle.
Ouais. On a même on a placé Roger Carlyle dans un du côté
sanatorium.
Dans un sanatorium.
Il est
il est toujours vivant. En tout cas, au moment où arrivent les investigateurs, enfin, s'ils arrivent en Chine et à Shanghai, et nous proposons également éventuellement la possibilité, puisque bon, c'est par lui que tout est arrivé, éventuellement d'aller le voir. D'essayer de l'interroger, même si ce sera difficile.
Il y a quelques problèmes d'étanchéité.
Et voir éventuellement d'essayer de négocier pour le rapatrier aux États-Unis.
Et là, on reboucle avec ce qu'on vous disait au début, une suite pour les masques. Repartir sur un PNJ qui fait partie de ceux qui peuvent relancer les masques. Nous, on vous propose l'option sanatorium, mais vous pouvez, je dirais, le laisser dans un état mental à peu près convenable, ou même finalement vous en servir comme... comme grand méchant pour une suite probable.
Alors ensuite, il y a également une petite reprise, une petite modification sur le final de l'île du Dragon Gris, donc de manière à avoir la cohérence avec les deux autres cérémonies qui se passent en Australie et à Narnia.
Et nous avons profité également pour mettre à jour le fameux rituel que l'on peut apprendre dans les sept livres cryptiques de Tzal.
L'œil de...
Oui, l'œil de lumière, puisque bon, c'est vrai que nous sommes permis en fait une petite fantaisie sur ce fameux rituel.
On est comme ça.
Oui, on est comme ça. Qui donnera un petit peu de piment et de saveur lors de son exécution dans ce chapitre.
Car on vous proposait dans la campagne initiale de pouvoir le refaire, mais très honnêtement, en lisant le rituel lui-même, on voyait pas comment il était possible de le refaire une seconde fois.
Ah oui, la pleine lune, voilà, la condition était un peu particulière.
C'est vraiment complexe.
Donc on les a édulcorées d'un côté, mais on les a rendues intéressantes
de l'autre.
La facilité a toujours son pendant. Donc voilà un chapitre qui finalement, je dirais, à la lecture des trois derniers chapitres, devient finalement le chapitre sur lequel on veut forcément finir la campagne. Parce que on peut très très facilement avoir envie de la finir en Australie, qui peut faire un final grandiose, ou au Kenya, qui peut être absolument monstrueux. Donc là, on a un vrai équilibrage, Et on a des liens qui peuvent très facilement vous emmener donc de Shanghai vers l'Australie, vers Perth et vers ses destinations de Houston, et aussi vers le Kenya. Et même, on a même des liens vers Londres et vers le Caire, je crois.
Enfin, grâce
notamment toujours au fameux Vendivoire et au registre. Hein. S'ils n'avaient pas écrit, on n'en serait pas là.
Donc le bol de nouilles est démêlé, et maintenant aujourd'hui les gardiens n'auront plus peur quand leur PJ se prendront la direction de Shanghai, puisqu'ils pourront tout à loisir et facilement savoir ce qui s'y passe et les renvoyer vers des chapitres qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de terminer.
Chapitres donc et introductions ont été passés en vue. Maintenant, on va attaquer une des parties, je dirais, qui pourrait, même en étant placée en fin d'ouvrage, faire partie de celles qui sont les plus importantes, les annexes, notamment ben, la première hein, qu'on trouve dans tout ouvrage de son détour.
On devrait trouver. Donc, tout ce qui est index. Donc, en fait, dès que le gardien a sa communication sur ce qu'il cherche, ou ce dont il a besoin, il se reporte là-dedans. On retrouve de tout. Tout ce qui est les termes clés, les personnages, les différentes rubriques avec pistes et aides de jeu, les illustrations, les plans, les index, bien sûr, de tout ce qui est ouvrage impie, enco. Ensuite, on va retrouver quelque chose de très important, c'est comment bien préparer la campagne.
Donc, à ce niveau-là, on a eu beau distiller parmi dans toute la campagne des conseils un peu partout. Vous verrez, vous aurez la question du profond, des choses comme ça auxquelles on a essayé de répondre. On a rassemblé dans cette annexe donc tout ce qui concerne les inspirations, littérature, les différents livres, le cinéma, les bandes dessinées et autres. On s'est beaucoup axé aussi sur l'ambiance, notamment avec Carter et sa BO mania, avec donc les BO dont il vous a parlé, avec par thème, par endroit, par chapitre. On vous donne aussi quelques conseils de préparation pure sur la partie, comment la préparer, notamment en vous faisant référer au podcast dédié à cette partie-là. Et on terminera par le monde, un petit résumé du monde entre les années 1920 et 1925, avec des faits historiques, un calendrier pour pouvoir repérer où en sont vos investigateurs, et que sais-je. Donc là, ensuite, on passe sur la partie, après avoir préparé la campagne, on va vous donner des conseils pour bien la maîtriser.
Voilà, donc là, il s'agit d'un certain nombre d'outils, par exemple, le calepin du gardien, et on a fourni également aussi des détails sur les modes de transport, comment se déplacer, et en particulier, tous les déplacements intercontinentaux, que ce soit par bateau, par avion. Et puis également derrière des outils un petit peu plus sympathiques pour des personnages minutes, avec des informations sur dans quel pays comment les personnages peuvent se nommer, et on a aussi en même temps une section sur les langues avec des termes, des mots spécifiques,
le lexique
exactement. Pour vous permettre
de donner un peu de couleur locale.
Une couleur locale complète. Et donc, on fait une dernière annexe, cette fois, pour aller plus loin.
Bon, alors là, comme on est pointilleux, on a fait des règles. Et quelque chose qui manquait jusqu'à présent dans les productions sans détour, c'était la gestion financière, qui n'est que peu utilisée par les joueurs depuis la V6. Donc, on vous propose tout simplement des règles pour gérer la santé financière de votre groupe durant toute la campagne. Donc ça, c'est la rubrique touche pas au Grisby. Ensuite, on a encore des règles. Bon, ça, c'est pour aller plus loin, on est bien d'accord. Des règles avancées. Donc, des règles concernant tout ce qui est le transport, une gestion des transports maritimes et des marchandises.
Les marchandises,
voilà. Ce qui nous a permis aussi de rendre très cohérents les prix dans tout ce qu'on avait mis dans les registres. Parce qu'on fait les choses bien, surtout. Ensuite, on a tout ce qui est les expressions. Le Little Fingry Long Mustang. Donc là, c'est du bon. Il y a de l'expression australienne, kenyane, il y a de l'arlemois, il y a de tout. Vous pourrez vous en donner à loisir pour rendre tout le chapitre.
Tu peux parler la cité, quoi.
Local.
La cité dans les années 20.
Et ensuite, pour que les investigateurs
arrive à survivre dans ces milieux hostiles, je vous passe Carter.
Oui, donc pour certains qui auraient eu entre les mains à une époque l'ouvrage, le supplément Terreur venue des étoiles, ils se souviendront donc qu'il contenait le manuel de Terron Marx. Donc c'était un petit fascicule de plusieurs pages qui fournissait de multiples conseils pour les investigateurs pour survivre face aux menaces du mythe. Et donc, grâce donc à Sans Détour qui nous a donné, rappelons-le, carte blanche, nous avons pu donc récupérer en fait et intégrer ce fameux manuel
dans son intégralité.
Dans son intégralité, en fait, dans la campagne. Donc, nous avons fait quelques petites modifications mineures et nous proposons donc deux alternatives pour le proposer aux investigateurs. La première, c'est donc de le fournir en début de campagne. Vous fournissez le petit livret à vos investigateurs pour qu'ils puissent s'en imprégner et puis s'en servir dès le premier chapitre pour s'en sortir et survivre.
C'est le guide de survie en territoire masque.
Voilà. Sinon, une approche plus roleplay, c'est via Jonah Kensington et sa maison d'édition d'ouvrages occultes, puisque bon, donc il dispose en fait de ce manuscrit, donc il ne connaît absolument pas la véracité, et il souhaite en fait que les investigateurs puissent se pencher sur cet ouvrage afin de déterminer si cet ouvrage est...
La véracité du contenu.
Exactement. Voilà, donc qui fournit donc une multitude de petits conseils pour survivre.
Et donc la dernière annexe regroupera toutes les aides de jeu. Donc, bon, comme on vous l'a dit, nous on apporte les textes. Donc, on compte sur Sans Détour pour nous faire des trucs vraiment terribles, bien chiadés et qu'on puisse sortir. On essaiera de vous proposer en téléchargement sur TOC pour que vous puissiez ne pas avoir à défaire, à détricoter votre ouvrage pour les récupérer. C'est ainsi que on clôt ce podcast qui, là, si à ce stade vous voulez toujours être joueur, ça va pas être facile.
Il fallait pas écouter.
Acheter la campagne et puis.
Comme on vous l'avait dit, c'était un peu dédié aux gardiens.
Les joueurs, fallait pas écouter.
On est un peu trop tard. De Marigny, un mot pour conclure sur ce deuxième podcast qui suit le premier, qui décrivait un peu notre méthode de travail.
Là, vraiment, en ce qui concerne le résultat, un travail de qualité, quelque chose dont je pense qu'on peut être vraiment fier, avec les objectifs qu'on s'était fixés initialement, qui ont été remplis. Vraiment, beaucoup d'aide pour les gardiens, beaucoup de nouveaux matériels et une facilité d'accès à l'information très importante.
De ton côté, Carter, un mot de fin?
Je rejoins un peu l'avis de Marigny, puis
comme ça,
oui, c'est vrai. comme en fait, c'était évoqué, donc c'est vrai que donc on a essayé de faire vraiment au mieux de nos possibilités. Vraiment, comme j'aime bien à redire, mais vraiment de fournir un ouvrage vraiment clé en main qui se suffit à lui seul avec une version des règles ce V6 à côté pour pouvoir masteriser cette campagne. Et puis tout de même une belle aventure en ce qui me concerne que nous avons passé à travailler sur ce monument.
Là, je vais faire le con. Un mot de la fin pour ton côté.
Une belle aventure humaine, hein, j'en dis là-dessus. On a fait pas mal de choses et puis on a aussi réalisé qu'on pouvait bien collaborer. L'équipe de TOC n'a pas fini de nous surprendre. On ne sait pas encore sur quel projet on va avancer, mais ça sera du lourd la prochaine fois. Concernant cette nouvelle édition des masques, on a voulu la faire à notre image, comme on aurait aimé la voir entre
belle.
Les mains. Poilu. Poilu, barbu, ventru, il y a de tout. Mais en tout cas, on la pense efficace et très accessible. Maintenant, je crois que le mieux c'est d'attendre pour voir vos réactions et puis écoutez, si vous avez des remarques,
là.
Les aides de jeu sur TOC arriveront. On ne parlera pas de correction parce qu'il n'y en aura pas besoin. Par contre, vous avez des commentaires, allez-y, demandez, on traitera.
Bon, de mon côté, pour finir, je dirais qu'elle n'est plus linéaire,
Elle n'est plus teintée de blousons en sky et de génériques de Jump Street, grise. Elle n'est mortelle que si on veut bien la laisser mortelle. Tous les chapitres sont jouables. Le fait est que vous allez acheter quelque chose que vous allez pouvoir jouer de la première à la dernière page.
C'est ça. Il n'y a pas d'ajout superflu. On a tout rendu utile et exploitable.
Donc, on attendra bien sûr vos retours. Mais je pense que vous allez vous éclater. Car moi, pour ma part, je la rejouerai.
Ouais, ça, pareil.
Apparemment.
Je vous rejoins.
Et toc!